Je dois dire que je redoute la conférence de cet après-midi. Alors, non pas que j'aurais peur du traitement que vous pourrez m'infliger, parce que je vous quitterai à peu près de suite après la conférence, mais je la redoute en fait pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, la question sur laquelle voulons réfléchir est vue par beaucoup comme l'objection la plus formidable contre la foi chrétienne, contre la foi en Dieu, d'ailleurs tout court, pour plus d'un de nos contemporains, c'est l'argument qui exclut la foi en un Dieu, en tout cas en un Dieu tel que la Bible le présente, en un Dieu bon. Donc ça c'est déjà donc, la première difficulté. Alors la deuxième difficulté, c'est que je parlerai du problème de façon théorique et la question que nous nous posons a une dimension éminemment pratique. Et je ne vous connais que très peu, je ne sais pas qui parmi vous vit actuellement une situation de malheur, de maladie, de deuil, d'injustice. Et donc je ne parlerai pas en fait donc au niveau, on pourrait dire, pastoral, personnel, sur la question. Donc j'aurai un discours théorique, bon, qui a des répercussions pratiques, mais je ne prendrai pas en compte, très peu en compte, dans ma conférence, la souffrance qu'engendre le malheur. Je voudrais le dire dès le départ, qu'il y a donc une autre dimension à ce thème que la dimension apologétique. Peut-être aussi, je la redoute, parce que la conférence pourrait donner l'impression que je suis quelqu'un de courageuse, qui sait faire face au mal et au malheur, donc ce n'est certainement pas le cas. Donc je n'ai pas d'avance là sur d'autres, sans doute j'ai même du retard donc, sur des chrétiens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi en ce qui concerne la souffrance et la foi en Dieu, la confiance en Dieu qu'on peut avoir malgré les adversités de la vie. Alors, encore une raison de redouter la conférence, c'est que les réponses à ce thème, à cette question, sont multiples, même au sein du monde des chrétiens, que le temps ne me permet pas de développer toutes les réponses. En fait, je vais vous donner celle qui me convainc, et vous allez d'ailleurs voir que c'est plutôt une non-réponse. Je dois cette réponse, et d'ailleurs la présentation, à Henri Clocher, donc dans son livre « La doctrine du péché et de la rédemption ». Donc si vous voulez relire et approfondir ce que je vous enseigne, je vous conseille donc de vous tourner vers cet ouvrage. Il a également développé le même thème dans l'ouvrage « Le mal et la croix », qui est plus philosophique encore. Donc ça dépend un peu de l'ampleur que vous voulez donc donner à la réflexion à ce thème. Je peux peut-être, pour ceux, parce qu'il y a l'un ou l'autre d'entre nous qui ont une formation théologique, je peux peut-être afficher, disons mettre une étiquette sur la réponse que je vais vous développer. J'espère que ça ne va pas vous empêcher d'écouter. Donc je me situe dans la perspective calviniste, donc sur cette question-là, tout en sachant et tout en respectant d'autres options. Alors, le problème du mal, on pourrait tout simplement dire, pourquoi Dieu permet-il le malheur, ou donc le problème du mal. En fait, il naît, alors je vais l'aborder sous un angle biblique en fait, parce qu'on pourrait, bien sûr, je pense que vous connaissez tous l'objection en tant que telle, donc je n'ai pas besoin de la développer, mais en fait, ce qui est frappant, c'est de constater que cette objection-là, et en fait, est contenu dans l'Écriture et en fait surgit à la lecture de l'Écriture. Et j'essaierai de vous montrer tout à l'heure d'ailleurs que cette objection est posée dans l'Écriture de façon beaucoup plus aiguë que dans d'autres systèmes de pensée. Et ce problème, en fait, dans une perspective biblique, né donc de la conjonction de trois enseignements bibliques. Dieu est souverain, Dieu est bon, le mal existe et MOV. Et c'est la conjonction des trois affirmations qui produit le problème du mal. Vous pouvez nier une des trois affirmations et vous avez résolu le problème. D'ailleurs, ça sont des façons. Je vais voir si j'ai le temps. Donc, ce sont différentes façons, en fait, de répondre à cette objection. C'est de nier une des trois affirmations ou de, disons, de les atténuer. Alors, la plupart, je pense, nos contemporains, spontanément, sont tentés de nier l'affirmation que Dieu est bon et que Dieu est souverain. Disons que Dieu existe. Bien sûr, s'il n'existe pas, a fortiori, il n'est ni bon ni souverain. Mais vous pouvez, en fait, nier une des trois affirmations et vous avez apporté une réponse au problème du mal. Ce que je vais essayer de vous montrer dans la première partie de la conférence, c'est que, en fait, l'Écriture enseigne les trois. Et enseigne les trois de façon nette. Et donc, c'est en fait une impasse de vouloir résoudre le problème du mal en niant une des trois affirmations. Et donc, le problème du mal, en fait, est un problème que l'Écriture nous pose. Et nous allons voir comment nous positionner par rapport à ce problème. Alors, je voudrais commencer par l'affirmation qui est la moins joyeuse, je dirais, parmi les trois, donc le fait que le mal existe et est mauvais. Alors, j'ai noté une liste de références bibliques que je voudrais vous mettre à contribution. Alors, j'espère que vous avez votre Bible avec vous. Et ce qui m'arrangerait, si vous pourriez chercher une référence sur les cinq qui sont indiquées. Et donc, par la suite, donc, on va les regarder l'une après l'autre et celui qui aura la référence devant les yeux pourra la lire. Donc c'est une façon de m'assurer que vous ne vous endormez pas. C'est aussi une façon de m'assurer que vous suivez et que vous vérifiez dans l'écriture mon enseignement. Parce qu'évidemment, c'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que je vous raconte, mais ce que l'écriture nous enseigne. Et c'est aussi une façon de reposer ma voix. Voilà, trois bonnes raisons pour cela. Alors, Ésaïe 5, verset 20.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume.
Donc, le texte est très formel. Le mal n'est pas le bien. Il y a une différence fondamentale entre le bien et le mal, et malheur à ceux d'ailleurs qui appellent le mal bien. Donc, il y a une distinction qu'il faut maintenir. Et cette distinction n'est pas simplement théorique. Donc, si on regarde Romains 12, verset 9, on voit que cette distinction doit induire une attitude chez nous. Donc, Romains 12, verset 9. Ah, vous ne l'avez pas. Oh, je suis désolée, j'ai sauté. Alors, je vous donne Romains 12, verset 9. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Donc, la reconnaissance du mal doit chez nous donc, induire une attitude de rejet, d'indignation. Alors, Romains 6, 23 maintenant.
Le salaire qui va se pécher, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans le monde de Jésus-Christ pour notre Seigneur.
Donc, le mal non seulement existe, mais a des conséquences. La mort. Donc, opposé à la vie. Donc, il y a donc des conséquences dans la vie de l'homme, du mal, en particulier la mort. 1 Corinthiens 15, 26.
Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort.
Le dernier ennemi, c'est la mort. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant à noter dans l'attitude du chrétien face à la mort. Donc, il y a une façon, moi je dirais, j'espère ne pas choquer quelqu'un, pseudo-chrétienne, de nier en fait l'horreur de la mort et d'ailleurs de culpabiliser ceux qui portent le deuil. Et ce n'est pas la perspective biblique de nous dire bon, la mort après tout c'est la porte vers la vie. Bon, c'est vrai que Christ Christ est ressuscité, nous a ouvert le chemin, donc la mort pour nous est la façon, en tout cas actuellement, de rejoindre notre Seigneur. Mais c'est quand même la mort. Hein, et c'est le dernier ennemi qui doit être vaincu. Donc il n'y a pas d'éloge de la mort, hein, comme on peut le trouver dans d'autres conceptions, par exemple, dans certaines conceptions panthéistes, où la mort, justement, fait partie du grand cycle de la nature. Hein, donc, on naît, on meurt, et justement, la mort permet la renaissance derrière. Non, l'Écriture pose très clairement la mort, et donc salaire du péché, conséquence du mal, comme un ennemi qui doit être vaincu. Romains 1, verset 18.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Donc la colère de Dieu contre l'iniquité, ce qui montre aussi très clairement d'ailleurs que Dieu n'est pas complice du mal, donc le mal est contraire à sa volonté, suscite sa colère, implique la condamnation, la perdition, pour ceux qui commettent le mal. Et si on a encore besoin d'une preuve que le mal existe et qu'il est mauvais, il suffit de regarder à la croix qui nous montre le prix de l'expiation, le prix de réparation nécessaire pour, disons, pour surmonter le mal, pour surmonter le péché. Alors, peut-être, vous vous dites, là, bon, d'accord, on ne prouve que le mal existe et est mauvais, hein, j'ai pas vraiment besoin de cela, donc il suffit que j'ouvre les yeux et que je vois que le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Certes, mais si je vous dis que c'est uniquement à la lumière de la Bible que nous reconnaissons pleinement le problème du mal, c'est que, justement, la pensée humaine est tellement tentée de résoudre ce problème, qui a une très forte tentation à nier, en fait, une des trois affirmations. Et donc, il y a des conceptions qui nient, en fait, l'existence du mal. Ou en tout cas, qui atténuent. L'hindouisme est un exemple. Parce que dans l'hindouisme, et d'ailleurs dans le panthéisme de façon plus large, donc Spinoza serait le penseur représentatif dans la pensée occidentale, donc, dans l'hindouisme panthéiste, donc vous avez donc l'idée en fait que la réalité est une, que toutes les distinctions sont une illusion, donc la distinction entre le bien et le mal est une illusion. Vous avez, je vous donne un exemple, on pourrait prolonger la liste, je vous donne l'exemple des Mormons, qui font en fait l'éloge de la faute originelle, qui pour eux est une étape indispensable sur le chemin de la croissance de l'humanité. Et donc, je vous lis un extrait de leur livre « La perle de Grand Prix », où, donc, en commentaire, en fait, à la chute, ce que nous appelons la chute, donc, dans la perspective mormone, c'est plutôt, disons, une chute qui vous fait monter. Non, je ne sais pas comment on appelle ça, on tombe vers le haut. En ce jour-là, Adam bénit Dieu, fut rempli du Saint-Esprit et commença à prophétiser concernant toutes les familles de la terre, disant « Béni soit le nom de Dieu, car à cause de ma transgression, mes yeux sont ouverts et j'aurai de la joie dans cette vie et je verrai de nouveau Dieu dans la chair. » Et elle, sa femme, entendit tout cela et se réjouit, disant « Sans notre transgression, nous n'aurions jamais eu de postérité, parce qu'il y a cette idée que, en fait, il fallait accéder à la connaissance du bien et du mal pour en fait avoir les relations sexuelles. Et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. » Donc, alors, une façon, j'ai envie de dire, plus édulcorée, je vais juste vous citer encore un penseur, donc Leibniz, philosophe allemand Leibniz, qui dit en fait, donc là je lis Leibniz, donc Dieu veut le péché par accident de la même manière que le musicien veut la dissonance. Supposons en effet un cas où la perfection même de la mélodie réclame de mélanger des dissonances et de les compenser en retour. Ainsi Dieu permet les péchés parce qu'il comprend que la série de l'univers sera plus parfaite s'il les intercale et les compense par une merveilleuse proportion. La perspective des choses exige qu'un tableau soit nuancé par des ombres, une mélodie relevée par des dissonances augmentant le plaisir par leur compensation même. Hein, donc il dit, un morceau de musique a besoin de dissonances qui sont résolues par la suite pour être vraiment belle. Un tableau a besoin de zones d'ombre pour être un tableau parfait. Et ainsi, le monde hein, a besoin en fait du mal pour être le meilleur monde. Je veux dire, vous connaissez l'affirmation de Leibniz, disons, ridiculisée par Voltaire, hein, que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Et le meilleur des mondes possibles, pour Leibniz, inclut le mal. Donc c'est une façon, disons, de reconnaître le mal, mais de dire, c'est pas vraiment mauvais. Parce que ça sert à un bien plus grand, hein, ça sert à l'harmonie de l'ensemble de l'univers. Et face à ces tentatives-là, donc, l'écriture est assez claire pour dire non, je veux dire, le mal ne devrait pas exister, c'est une révolte contre Dieu, contre sa volonté. Dieu est en colère contre cela et ceux qui commettent le mal, ils vont vers la perdition. Donc, première affirmation, donc, le mal existe et est mauvais. Deuxième affirmation, Dieu est souverain. En fait, affirmer Dieu souverain est un corollaire, est une conséquence du monothéisme biblique, de l'affirmation que Dieu seul est à l'origine de tout, qu'il n'y a rien qui échappe à sa volonté, il n'y a pas de réalité indépendante de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas souverain, cela voudrait dire en fait qu'il y a d'autres dieux, d'autres demi ou petits dieux qui pourraient justement se soustraire à sa volonté. Et la Bible enseigne, alors là je vais dire, non je ne plaide pas coupable, mais je le dis, là je vous enseigne la position calviniste par rapport à la souveraineté de Dieu, mais qui pour moi découle simplement de l'enseignement biblique. Je confesse que je n'arrive pas à lire l'écriture autrement. Donc que Dieu détermine tous les événements, hein, les grands comme les petits, jusqu'à la chute des moineaux. Et donc, quelques références. Commençons avec la première ligne qui sont là, donc des références générales hein, sur le fait que Dieu est souverain. Donc avant de nous adresser ou de nous intéresser plus spécifiquement au problème du mal, donc Éphésiens 1, verset 11. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Le plan de Dieu s'accomplit. Et pas seulement dans les grandes lignes, mais même dans les petits événements. Hein, parce que certaines pensent que Dieu détermine les grandes lignes de l'histoire, mais pas les petits événements. Mais justement, Matthieu 10, verset 29, nous montre que non, Dieu détermine tout. Même les événements les plus insignifiants. Matthieu 10, 29.
Ne tombons pas deux moineaux pour un sou, cependant aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu entre faire le sache.
Oui, vous lisez quelle traduction? Oui. Bon. Alors, par ailleurs, j'apprécie. Hein. Le texte dit exactement sans Dieu le Père, hein, donc aucun moineau ne tombe par terre sans Dieu le Père. Alors la Francis Courant l'interprète sans que Dieu le sache, donc on fait une affirmation de l'omniscience de Dieu. Les traductions, d'ailleurs qui rajoutent aussi un peu, hein, les autres traductions donc plus traditionnelles qui voient une affirmation de la toute-puissance et de la souveraineté de Dieu hein, sans la volonté de Dieu. Je pense quand même que c'est un peu tout faible, hein, la traduction là de la Francis Courant. Disons sans Dieu le Père, mais pas seulement qu'il le sache, mais il n'y fait rien. C'est pas, en tout cas, ce n'est pas une omniscience oisive, mais il est actif, donc c'est sa volonté qui s'accomplit. Et cela inclut les actes humains. juste deux références à ce sujet, Proverbe 21, verset 1 et Proverbe 16, verset 9. Proverbe 21, verset 1.
Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige son
cœur. Voilà. Donc, il ne faut pas lire ce verset en disant bon, c'est le cœur du roi et qui est comme un cours d'eau dans les mains du Seigneur, mais pas les autres hommes. Mais il faut plutôt le lire comme le roi, qui est l'homme libre par excellence, en tout cas à l'époque. Hein, donc, l'homme qui décide de la loi, hein, qui a aussi toute la richesse qu'il veut pour accomplir ses actes. Donc, c'est l'homme qui ne subit aucune contrainte, bon, autre peut-être la condition criée. Hein, donc, évidemment, même un roi ne peut pas voler simplement, s'élever dans les airs hein, simplement parce qu'il le veut. Hein, donc, il y a quand même des lois auxquelles il est soumis. Mais c'est quand même l'homme le plus libre qui soit. Et même ce roi-là, même cet homme-là, est entre les mains du Seigneur comme un cours d'eau. Donc Dieu incline son cœur où il le veut. Proverbe 16, verset 9.
Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, et c'est l'Éternel qui dirige ses pas.
Donc, l'homme propose, mais Dieu dispose, hein, comme dit le dit-on. Et cela correspond en fait à l'enseignement scripturaire. Alors, il faudrait avoir du temps pour développer, parce que, évidemment, tout de suite on se dit, mais est-ce que ça veut dire que nous sommes des marionnettes? Non, bien sûr que non. Nous sommes créés justement en tant qu'êtres libres, et c'est dans notre liberté même que Dieu accomplit son plan, en utilisant en fait nos actes libres, il accomplit son plan. Alors, je ne m'arrêterai donc pas sur cette difficulté-là, qui est une réelle difficulté, et sur laquelle on devrait s'arrêter et prendre le temps. Donc, je me limite simplement à vous montrer quelques versets qui montrent la souveraineté de Dieu. Et je voudrais maintenant vous le montrer par rapport au mal. Et c'est là où les choses se corsent vraiment. Mais ce n'est pas parce que un enseignement biblique est difficile à recevoir ou nous pose problème qu'on est libre à le mettre de côté. Donc, Ésaïe 45, verset 7.
J'ai formé la lumière et fait les ténèbres, je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses.
Voilà, donc Dieu qui forme la lumière, qui crée les ténèbres, qui réalise la paix, qui crée le malheur. Lamentations 3, 38.
N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens?
Et dans l'Écriture, ce ne sont pas que des affirmations générales, mais cette conviction que Dieu est souverain sur le bien comme sur le mal inspire une attitude de confiance aux croyants. Un exemple est l'attitude de David face à la malédiction par Shimei. Donc 2 Samuel 16, versets 10 et 11, David qui est en fuite devant son fils et en quittant Jérusalem est maudit par Shimei. Et donc ses serviteurs fidèle, donc l'incite en fait à punir, mettre à mort même Shimei. Et voici la réponse de David. 2 Samuel 16, verset 10 à 11.
Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel quitta Isaïe.
Non, c'est 2 Samuel 16, pas 1 Samuel 16, 2 Samuel 16.
Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsirja, s'il maudit? C'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en vue à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamin, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit.
On peut se demander comment David savait-il que le Seigneur avait dit à Shimei de le maudire. Est-ce qu'il a eu une révélation spéciale? Je ne pense pas. Je ne pense même pas que David veuille dire que Shimei a reçu un ordre de Dieu de maudire David. Il dit simplement, Dieu souverain, si ce Benjamin, si Shimei me maudit, c'est que Dieu Alors nous disons facilement que Dieu le permet. David dit plus, que Dieu le veut, que ça fait partie de son plan, qu'il a ordonné que cela se produise. Acte 4, 27 à 28. Donc là, c'est un texte qui parle de la croix, qui est, on pourrait dire, le crime par excellence. L'humanité, le mal par excellence, je dirais, l'humanité, disons, dans ses représentants, d'ailleurs juifs et païens, hein, donc les autorités du peuple juif et Ponce Pilate en tant que représentant des païens pour montrer que c'est toute l'humanité qui est impliquée dans la mise à mort de Jésus, donc l'humanité qui rejette le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que disent les premiers chrétiens par rapport à cet événement? Acte 4, 27 à 28.
En effet, c'est bien lui qui Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté.
Donc, le crime par excellence, le méfait, je dirais, qui montre la profondeur de la corruption de l'homme, les apôtres disent, c'est Dieu qui l'a déterminé d'avance en son plan. Bon, il y a bien d'autres textes d'ailleurs qui les disent. Parce que Dieu, évidemment, ils sont pas évidemment, Dieu avait prévu le salut depuis avant la fondation du monde, et donc il inclut ce crime horrible. Maintenant, on pourrait dire bon d'accord, mais ça vaut pour la croix, parce que la croix accomplit le salut, donc c'est important que Dieu l'a prévu. Mais ce plan de Dieu qui englobe les crimes des hommes, en fait, englobe aussi des faits qui ne sont pas partis en fait, de l'histoire du salut, qui sont, on pourrait dire, simplement un jugement sur les péchés commis. Et donc, un texte assez horrible, d'ailleurs, je trouve, c'est 2 Samuel 12, verset 11. 2 Samuel 12, verset 11. Donc, c'est le Seigneur qui parle à David par la bouche du prophète Nathan, et donc suite à l'adultère de David, et voilà ce que dit le Seigneur.
Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil.
D'ailleurs, prophétie qui s'est accomplie, parce que Absalom donc l'a fait. Hein. Donc justement dans l'épisode dans lequel aussi Shimei maudit David. Donc je prendrai tes femmes devant tes yeux et je les donnerai à ton prochain. Dieu, alors faut-il dire impliqué dans l'adultère? Dieu n'a jamais l'auteur du mal, mais le texte, en tout cas, est très fort. Le texte ne dit pas simplement « je permettrai que ton prochain le fera », mais Dieu prend l'initiative. Donc le langage employé dans ce texte est extrêmement fort. Et un dernier exemple, 2 Samuel 24:1 comparé à 1 Chronique 21:1. Bon, on va quand même les lire. 2 Samuel 24:1, 1 Chronique 21:1. Il faut lire les deux versets ensemble.
L'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites. Il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda.
Voilà, et 1 Chronique 21:1.
Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël.
Voilà, il y a aussi une difficulté célèbre dans l'harmonisation des textes bibliques. Parce que vous avez le même acte qui est attribué à Dieu, donc au Seigneur, dans 2 Samuel 24, qui est attribué à Satan, dans 1 Chronique 21. Donc l'incitation donc, au dénombrement d'Israël et de Juda. Et D'ailleurs, si c'est une difficulté célèbre, c'est qu'à première vue, ça paraît s'exclure. On se dit, mais soit c'est Dieu, soit c'est Satan, mais ce n'est pas les deux qui peuvent accomplir le même acte. Maintenant, ce n'est pas une difficulté qui aurait échappé aux auteurs bibliques, parce que les livres de chroniques utilisent très largement les livres de Samuel, donc c'est même la source principale, et le texte 1 Chronique 21 est très clairement une recension, en fait, de Samuel 24. Maintenant, il ne faut pas penser que le chroniste aurait corrigé 2 Samuel 24, parce qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible qu'il faudrait corriger. Je pense néanmoins que c'est un changement volontaire, parce que le chroniste, donc l'auteur des chroniques, a voulu, disons, garder contre un malentendu possible, que Dieu serait l'auteur du mal. Et dans ce sens, c'est une affirmation de la bonté de Dieu, que Dieu ne commet pas le mal. Mais si dans 2 Samuel 24, on dit que c'est le Seigneur qui incite David à ce recensement, c'est justement pour affirmer la souveraineté de Dieu. C'est pas seulement Dieu qui ferme les yeux, qui laisse Satan faire. Non, Dieu est tellement présent, est tellement puissant, est tellement aussi au courant de ce qui se passe, si Satan commet un acte, la responsabilité, pas la responsabilité, mais alors les mots me manquent d'ailleurs pour les dire, disons, on peut le présenter comme l'acte de Dieu lui-même, donc comme un parent, je dirais, qui est avec son enfant, donc bon, c'est peut-être l'enfant qui fait le méfait, mais si le parent le voit et a la possibilité d'intervenir, on a raison d'ailleurs de blâmer le parent pour le méfait de l'enfant. Alors, évidemment, parmi les penseurs qui ont essayé de résoudre le problème du mal, c'est cette affirmation-là de la souveraineté de Dieu qui a été le plus souvent mise en cause. C'est très tentant, en fait, de résoudre le problème du mal de cette façon-là. Alors, la façon la plus nette, c'est le dualisme. Donc, d'affirmer en fait que le bien et le mal sont deux principes métaphysiques opposés, premiers. Alors, la version la plus nette du dualisme, c'est la religion perse officielle, le mazdéisme. Vous connaissez peut-être le nom de Zoroastre, qui est le fondateur légendaire en fait de cette religion. Donc, il y a deux forces qui s'opposent, le bien et le mal. Et donc, du coup, d'ailleurs, on explique l'existence du mal parce que c'est une force que le bien ne maîtrise pas. Alors, ça, évidemment, pour nous, ce n'est pas une option. Déjà, parce que Dieu est Dieu, donc on ne peut pas imaginer que quelque chose échapperait à son gouvernement, à sa souveraineté, que quelque chose existerait que Dieu n'aurait pas créé. Notons aussi que le dualisme est en fait une vision, alors qui certes résout le problème du mal, qui est une version très pessimiste. Parce que si le mal est indépendant du bien, qui me dit qu'au final le bien va remporter sur le bien? Bon, il faut moins que le bien soit plus fort, mais qui me le garantit? Si le mal est vraiment une force qui existe, qui ne trouve pas son origine dans le bien, qui me garantit que ce sera le bien qui aura au final la victoire? Alors, on trouve des versions, on pourrait dire, dualistes édulcorées, nuancées, dans la pensée chrétienne. Par exemple, si on veut des noms, ce sera Pélage, un moine du 5e siècle, ses héritiers. Beaucoup d'autres, l'excellent livre de C.S. Lewis, Le problème de la souffrance, qui est excellent, que je vous encourage vraiment à lire, propose une solution au problème du mal qui est de ce type-là. En fait, on affirme la liberté humaine comme indépendante de Dieu. Et donc, ça serait Dieu dans sa liberté, l'homme dans sa liberté qui pourrait s'opposer à Dieu et mettre en échec le plan de Dieu. Et d'ailleurs, C.S. Lewis va aller jusqu'à dire que l'enfer est la province des rebelles irréductibles. Comme Dieu n'arrive pas au bout avec ses rebelles, finalement ils enferment, et comme ça ils ne peuvent plus faire de mal. Bon, le livre par ailleurs était vraiment excellent. D'ailleurs, rien que le fait que C.S. Lewis ose défendre l'idée d'enfer, c'est déjà très courageux. Il y a plein d'idées intéressantes. Et bon, je pense que la solution qu'il propose ne fait pas justice à l'enseignement scripturaire sur la souveraineté de Dieu. Mais il est clair que les solutions, on pourrait dire, du Dieu faible, hein, sont très attrayantes. Alors moi, j'ai le souvenir d'avoir écouté une prédication d'un pasteur sur fréquence protestante, hein, donc, non, c'est moi, France Culture, donc présence protestante, hein, les cultes de 8h30 du dimanche matin, donc j'aime beaucoup en fait écouter ce culte, et on entend d'ailleurs le meilleur et le pire, hein, donc à l'image de la fête de Saint-Baptiste, ou de Baptiste protestante, excusez-moi, sinon je me fais virer même avant la fin de la conférence, la fédération protestante. Donc, où on trouve le meilleur et le pire, et donc ce dimanche-là, c'était plutôt le pire, donc un prédicateur donc, qui racontait en fait une rencontre qu'il avait eue avec un jeune qui avait eu un grave accident, je pense de moto, et donc avec des blessures énormes, et donc ce jeune donc, pose à ce pasteur la question de « Où était Dieu ?» Hein, au moment de l'accident. Et là, ce plan pastoral est une vraie question. Et je ne dis surtout pas qu'il faille simplement lui assainir hein, ma conférence en réponse, il y a toute une démarche pastorale à faire. Mais, alors le pasteur a répondu, ben, Dieu était avec toi sur la moto, il ne pouvait rien faire, il a subi l'accident avec toi. C'est une réponse tentante, mais en même temps, c'est une réponse désespérante. Parce que si Dieu ne peut rien faire contre le mal, ben, et donc la solution du Dieu faible, on comprend, hein, on comprend pourquoi elle est attrayante, mais je pense qu'elle est une erreur. Elle est elle est une erreur, et elle ne rend pas justice à l'enseignement biblique sur la souveraineté de Dieu, sur toute l'histoire, y inclut les actes des méchants. Alors, troisième affirmation, Dieu est bon. Dieu n'est ni à l'origine ni complice du mal, il ne lui donne jamais son approbation, le mal est toujours hostilité contre Dieu. Alors, ça paraît évident, mais une fois qu'on a, disons, qu'on a lu, qu'on a digéré un peu les versets qu'on vient de lire, on pourrait commencer à avoir quelques doutes, on pourrait se dire, ben, si Dieu crée le malheur, si il prend les femmes de David pour les donner à quelqu'un d'autre, est-ce que... Voilà. Mais justement, là, non, l'affirmation biblique est tout à fait nette, Dieu est bon. Alors, les affirmations sont pléthores, mais on va juste regarder ces quatre références qui sont parmi les plus nettes. Donc, Deutéronome 32, verset 4, d'abord. Voilà. Ses voies sont justes, Dieu est fidèle, pas d'injustice, entièrement bon ce qu'il fait. Habacuc 1, verset 13.
Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui?
Donc, tes yeux hein, sont trop purs pour voir le mal. Et d'ailleurs, ça pose problème à Habacuc. Parce qu'Habacuc dit, mais attends, tu nous envoies, dans le contexte, tu nous envoies les Babyloniens pour punir le peuple d'Israël. Alors, je comprends que tu punis, hein, mais, parce que le peuple a été infidèle. Mais comment peux-tu, hein, c'est là la question d'Habacuc, comment peux-tu utiliser un peuple qui est encore plus méchant? Je comprends la punition, nous l'avons méritée, mais comment peux-tu utiliser un peuple encore plus méchant, les Babyloniens, donc qui viennent donc, en jugement sur les Juifs? Et Habacuc dit, mais je ne comprends pas, hein, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, comment peux-tu faire cela? Jacques 1, verset 13.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et ne tente lui-même personne.
Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Donc ce n'est pas seulement l'affirmation que Dieu est bon, mais il est tellement au-dessus du bien qu'il peut au-dessus du mal qu'il ne peut même pas être tenté par le mal. Et qu'il ne tente personne. Donc Jacques est très net de dire si vous êtes tenté, c'est votre propre cœur, c'est votre propre cœur tordu qui est la source de la tentation. Et comme dernier verset, 1 Jean 1, verset 5.
Voici le message que nous avons reçu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres.
Dieu est lumière, il n'y a aucune trace, il n'y a pas en lui de ténèbres. Et c'est justement contre certaines spéculations déjà à l'époque. Sans doute un peu ce qu'on pourrait appeler les proto-gnostiques, ce qui va devenir un système élaboré dans le gnosticisme au 2e, 3e siècle, et qui, justement, était tenté d'intégrer des ténèbres en Dieu. Où là, Jean dit non, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Rien qui pourrait ressembler au mal ou donner une emprise ou le faire complice, même de loin. C'est absolument impensable. Alors, cette dernière affirmation, donc Dieu est bon, est rarement mise en cause. On comprend d'ailleurs, parce que affirmer que la réalité dernière n'est pas bonne, c'est horrible. C'est horrible comme pensée. Donc, ce n'est vraiment pas tentant. Il y a quand même des systèmes de pensée qui vont dans ce sens. Alors, ce ne sont pas des systèmes qui affirment l'existence de Dieu, mais je dirais, si on prend Dieu ou le divin comme la réalité ultime, on pourrait dire qu'il y a des systèmes de pensée dans lesquels, effectivement, la réalité dernière est mauvaise. L'exemple type serait le bouddhisme, où, en fait, tout ce qui existe est douleur pour le bouddhisme. Là, de nouveau, d'ailleurs, la façon dont on présente le bouddhisme en Occident est assez loin de sa version originale. Donc, une citation du Bouddha. « La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'union avec ce que nous haïssons est douleur, la séparation avec ce que nous aimons est douleur, ne pas obtenir ce que nous désirons est douleur. » Donc, tout ce qui existe, tout ce qui ressemble à la vie, le désir, l'amour, l'attachement, est douleur. Et donc, il faut s'en détacher. Et d'ailleurs, le but recherché est le nirvana, qui n'est pas le paradis, qui est le vide, le néant, le non-existant, et qui seul garantit d'ailleurs l'absence de douleur. Donc vous avez là une vision où la réalité ultime, alors est-ce qu'elle est divine ou non? Parce qu'à vrai dire, le bouddhisme ne connaît pas de Dieu, c'est une religion sans Dieu, mais en tout cas, la réalité ultime, donc, est marquée par la douleur, et donc il faut la dépasser justement pour aller vers le non-existant. On pourrait dire aussi que l'existentialisme est une forme athée de cette vision pessimiste. Citons la figure du Sisyphe chez Albert Camus. Je ne sais pas si vous connaissez, donc Sisyphe dans la mythologie grecque, donc il est condamné par les dieux de rouler une pierre en haut de la montagne, et quand la pierre donc, arrive en haut, donc la pierre est lâchée, donc redescend, et donc Sisyphe retourne au pied de la montagne et doit la remonter. Et donc Albert Camus qui lit dans cette figure de Sisyphe en fait la figure de l'homme, tout court, de l'existence humaine. Et donc là aussi, on peut dire une réalité purement pessimiste, une vision purement pessimiste. Mais, alors, en tout cas dans le domaine, on pourrait dire, de la pensée chrétienne, cette idée-là donc, de nier la bonté de Dieu n'a pas eu beaucoup de succès, si je sais. Donc, pour résumer, donc, au point où nous sommes arrivés, j'espère en tout cas que vous m'avez suivi, je reconnais que ça va très vite, et qu'il faudra, je pense, reprendre les références bibliques et relire ces textes, les enrichir par d'autres références. Donc, Si on prend l'enseignement scripturaire, il y a une affirmation très forte de trois vérités ensemble. Donc le mal existe et est mauvais, Dieu est souverain et Dieu est bon. Et, en fait, c'est bien la difficulté. Donc nous sommes partis, on pourrait dire, d'une difficulté observée, expérimentée. La question qu'on a posée en introduction de la conférence, pourquoi Dieu permet-il le malheur dans le monde, c'est, on pourrait dire, une question qui surgit à l'observation. Quand nous nous tournons vers l'Écriture, nous voyons que cette difficulté, en fait, se trouve renforcée, se trouve en fait posée de façon beaucoup plus aiguë que simplement dans l'expérience courante de l'homme, parce que la Bible a une conviction beaucoup plus forte, je dirais déjà de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la bonté de Dieu, a aussi une conscience beaucoup plus forte du mal que la pensée humaine courante. Donc, le problème que l'homme rencontre, on pourrait dire de façon ordinaire, se retrouve dans l'Écriture, et se retrouve dans l'Écriture de façon, on pourrait dire, aiguisée, amplifiée. Alors, que faisons-nous face à cette difficulté? Est-ce que je vous renvoie en disant, c'est vrai, il y a là une objection terrible contre la foi chrétienne, pas de réponse, la Bible n'en a pas de réponse, donc, après tout ce que je vous ai dit, il y a quand même une objection majeure contre la foi chrétienne qui ne trouve pas de réponse. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais ma réponse n'est pas éloignée non plus de cette position. Et donc, vous allez voir, donc je vais essayer de développer en deux temps maintenant, un peu la synthèse de ce que je voudrais dire par rapport au problème du mal. Alors, premièrement, je voudrais vraiment affirmer et réaffirmer qu'on ne trouve pas de réponse au problème humain dans l'Écriture. Et cela, non seulement parce qu'il y a trois vérités qui sont enseignées, toutes les trois dans l'Écriture, en tout cas telle est ma conviction, on pourrait peut-être, je pense, celle qui mériterait plus de discussion, plus d'approfondissement, serait l'affirmation de la souveraineté de Dieu. Si j'ai dit tout à l'heure que je suis calviniste, c'est par rapport à cette affirmation-là que ça se joue. Pas par rapport aux autres. Donc, déjà, c'est vrai, là je constate un problème, mais encore plus, l'Écriture elle-même constate le problème. Il y a des textes bibliques qui explicitement posent le problème du mal et refusent d'y répondre. Et il y a trois textes en particulier, un texte qu'on a déjà cité et donc deux autres qu'on va citer maintenant. Donc, commençons par Habacuc. Habacuc 2, disons, il faudrait commencer au chapitre 1. Habacuc, alors je vais peut-être reprendre au chapitre 1 pour vous resituer dans le contexte. Donc, Habacuc qui prophétise donc la prise du royaume du sud par les Babyloniens et qui, justement, donc au verset Habacuc 1, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais, tu ne peux pas regarder l'oppression. » Et donc, vient ce pourquoi. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Il dit, mais comment peux-tu nous envoyer les Babyloniens plus méchants que nous pour qu'ils nous punissent? Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme les bestiaux qui n'ont pas de maître. D'ailleurs, vous savez, au verset 14, exactement l'épreuve de la foi que pose le malheur. Où on a l'impression, bon, il y a le malheur qui s'abat sur nous, mais c'est le destin. Je veux dire, où est Dieu dans tout ça? L'épreuve pour la foi peut être comment Dieu me fait du mal. C'est une version. Mais plus souvent, en tout cas pour le moderne, je pensais plutôt. Mais où est Dieu dans tout ça? Il n'est même plus à l'œuvre. Et Habacuc pose cette question. Donc tu nous traites comme des bestioles qui n'ont pas de maître. Tu ne t'occupes pas de nous. Et donc, au chapitre 2, Donc, chapitre 2, je commence au verset 1. Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Donc, Habacuc à la recherche de la réponse. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de faire juste un commentaire en passant. C'est un verset remarquable sur l'inspiration des Écritures. Parce que notez ce que dit Habacuc hein, sur la révélation qu'il attend, sur les réponses qu'il attend. Donc, je vais guetter pour voir ce que il, donc Dieu, hein, le Seigneur, me dira. Donc, l'inspiration donc, de Dieu. Et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Habacuc, en tant que prophète, il parle lui-même. Hein, donc c'est un verset formidable qui affirme, on pourrait dire, la double origine hein, de l'écriture, de les révélations prophétiques en Dieu et dans le prophète. Donc ce qu'il me dira et ce que je répondrai, et bien justement, à partir du verset 2, vient la réponse. Donc le Seigneur me répondit, écrit la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. C'est encore une vision pour le temps fixé, elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien, elle ne sera pas différée. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra par la foi. Habacuc, attends. Attends, et elle a foi. Il n'y a pas de réponse. Il y a en filigrane la promesse d'une délivrance plus tard. Mais il y a surtout et avant tout un appel à la foi. Romains 9. Chapitre extraordinaire sur la souveraineté de Dieu, sur l'élection. Il faudrait commencer d'ailleurs un peu avant le verset 19. Donc, on va commencer au verset 14. Même au verset 13, où Paul réfléchit hein, donc à la prophétie qui donnait à Rebecca, le plus grand sera l'esclave le plus petit. Et j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü, et justement Paul va dire, cela est avant que Jacob et Ésaü soient nés, donc avant ce qu'ils ont fait, qui aurait justifié cette différence. Et donc verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Jamais de la vie. Car il dit à Moïse, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion, et je serai magnanime envers qui je serai magnanime. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a compassion. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit annoncé par toute la terre. Ainsi donc, il a compassion de qui il veut, et il fait s'obstiner qui il veut. Sans doute pas d'autres textes dans l'Écriture qui est aussi net hein, sur la souveraineté de Dieu, sur son élection. Et vient, bien sûr, vient en verset 19, l'objection. Alors, diras-tu, comment peut-il encore faire des reproches? En effet, qui peut s'opposer à sa décision? Si c'est Dieu qui élit, si personne ne peut s'opposer à sa volonté, comment Dieu peut-il encore juger? Et ce qui est frappant au verset 20, Paul ne dit pas, tu t'es trompé, je ne voulais pas vraiment dire que Dieu est souverain. Non, il faut relativiser un peu ce que j'ai dit. Non, il ne dit pas ça. Au verset 20, il dit, mais toi, humain, qui es-tu donc pour discuter avec Dieu? L'objet façonné, dira-t-il, à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage noble et un objet pour un usage vil? Et si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître son pouvoir à supporter avec une grande patience ces objets de colère formés pour la perdition, afin de faire connaître la richesse de sa gloire à des objets de compassion qu'il avait d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les juifs, mais encore entre les non-juifs. Hein? Qui es-tu, humain? Qui es-tu donc pour discuter avec Dieu? C'est une façon de dire, tais-toi. Tais-toi. Et soumets-toi à Dieu. C'est une non-réponse. C'est clair, je veux dire, à un parent qui a une réponse à une question de son enfant, dit tais-toi, hein, qui es-tu pour me poser cette question? C'est clair, c'est une non-réponse. et c'est la réponse que donne Paul à cette objection. Et alors, le dernier texte, c'est Job. Alors, on ne va pas lire tout le livre, vous le connaissez. Hein, donc, Job qui est consacré, je veux dire, qui est le livre sur le problème du mal. Comment le juste? Et donc, justement, les amis de Job vont donner des explications. Ils ont des explications. Donc, c'est que Dieu veut mettre à l'épreuve la foi de Job. Que peut-être, après tout, Job n'est pas tout à fait juste. Qu'il doit quand même se repentir à la souffrance, le rappel à Dieu. Donc les amis ont des explications. Job résiste toutes les explications. Et quand Dieu intervient, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Il ne répond pas à la question, aux questions de Job. D'ailleurs, il y a autant de questions dans le discours, dans les deux discours du Seigneur, que dans les discours de Job précédents. En tout cas, à peu près, le même nombre de questions. Donc, Dieu dit, ben, toi, tu m'as posé des questions sur ma justice, sur ma façon de gouverner le monde. Ben, très bien, moi aussi, je vais te poser des questions. Qui es-tu là pour me dire comment je dois gouverner le monde? Est-ce que toi, tu comprends ma création? Est-ce que tu comprends comment je m'occupe des phénomènes météorologiques? Et bon, si, est-ce que tu sais comment les étoiles sont nées? Et bon, si, voilà, si ça ne te suffit pas, je vais te montrer donc, les deux animaux, là, le crocodile hein, et sans doute le crocodile et l'hippopotame. Donc, on essaie déjà de t'occuper un peu de ces animaux avant que tu commences à me poser des questions sur ma façon de gérer ta vie. Pas de réponse. Et ce qui est frappant, alors quand on lit la réponse de Job, à la fin du livre, c'est très intéressant parce que nous connaissons la réponse dans le cas de Job, la réponse. Nous connaissons une partie de la réponse dans le cas de Job parce que nous savons ce qui s'est passé dans le ciel entre Dieu et Satan. Mais Job n'apprend jamais cela. Et donc, qu'est-ce que Job répond au deuxième discours? Job 42, je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Qui est celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets? Donc ça, c'est une citation du début du discours du Seigneur, où Job reprend cela et dit, oui, effectivement, je l'ai fait. Ainsi, j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute, je te prie, moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc là aussi, il reprend, c'est une citation du discours du Seigneur. Et Job reconnaît, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre. C'est remarquable comme réponse. Job dit, effectivement, moi j'ai parlé de ce que je ne comprenais pas. J'ai demandé des comptes à Dieu, mais qui suis-je? Je ne peux que me repentir sur la poussière et la cendre. Et en même temps, et c'est là où c'est très loin du fatalisme, c'est pas simplement écrase-toi, c'est maintenant, mon œil t'a vu. C'est dans la soumission à la volonté de Dieu que Job rencontre le Seigneur et qu'il trouve l'apaisement. Il n'a pas de réponse théorique à sa question. Il ne sait toujours pas pourquoi Dieu a agi de cette façon, mais il a rencontré son Seigneur et c'est là où il a trouvé l'apaisement. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je ne toucherai pas à la question pastorale, là je ne peux pas ne pas y toucher. Je crois que fondamentalement, au final, c'est là la réponse à la question du malheur quand on est confronté soi-même. Ce n'est pas de trouver une explication, parfois on la trouve. Oui, il y a des malheurs dans notre vie qui sont des conséquences du péché, et on le voit, et il ne faut pas le nier. Il y a des malheurs aussi qui nous rapprochent de Dieu, qui nous font grandir, tout cela est vrai, et pourquoi ne pas aussi le reconnaître. Mais il y a des malheurs où on n'a pas d'explication, pas de réponse, et la vraie consolation sera de rencontrer le Seigneur dans ces difficultés et de se soumettre à sa volonté. Et donc c'est une démarche de foi, de nouveau, on retrouve avec Dieu démarche de foi. Maintenant, ne doit-on pas dire, ok, donc la solution, entre guillemets, se trouve dans une démarche de foi, mais ça laisse l'objection entière. Et celui qui ne se place pas dans une démarche de foi, n'a-t-il pas, dans le problème du mal, une formidable objection à la foi chrétienne? Oui et non. Et là, bon, là, je plaide un argument, en fait, que je tiens à Henri Blocher, qui dit, en fait, et je trouve que c'est très bien vu, hein, mais il n'y a pas beaucoup, je dirais, qui suivent cette ligne d'argumentation. C'est pourquoi, là, je reconnais ma dette, hein, envers Henri Blocher, de dire le fait même que la Bible pose le problème du mal, dans toute toute son ampleur, dans toute sa force, il refuse d'y apporter une solution et de fait un argument en faveur de la vérité de la vie. Parce que l'homme est toujours tenté de faire entrer la réalité dans un schéma, dans un système. Et supporter qu'il y a une difficulté, et en plus une difficulté formidable, on pourrait dire la difficulté, sans y apporter une réponse, c'est, en principe, c'est insupportable pour l'homme. Je dirais de reconnaître le mal et de dire, il n'y a pas de réponse, et la seule réponse que j'ai, c'est de me soumettre à Dieu et de confesser cette difficulté et de lui faire confiance, c'est contraire à ce que l'homme a envie de faire. Et en fait, quand on regarde justement toutes les autres religions, toutes les autres conceptions du monde, ils apportent une solution au mal. Une solution qui ne tient pas, mais ils apportent une solution. Et le fait même que la Bible pose le problème de façon beaucoup plus aiguë que toute autre vision du monde, il refuse d'y apporter une suite de solutions et signe de sa vérité. Et signe du fait que la Bible est en prise avec le réel. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, hier soir, c'est le système idéologique qui permet à tout expliquer. Hein. Donc là, la Bible pose le problème et refuse une suite de solutions. Donc ça montre qu'elle est en fait en prise avec la réalité. Et on peut faire un pas de plus et de dire ce n'est pas n'importe quelle question qui reste sans problème, sans réponse, mais s'il y a une question qui doit rester sans réponse, c'est bien le problème du mal. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire, au fond, que d'expliquer l'existence du mal? C'est, au fond, de dire, après tout, le mal entre quand même dans le système logique, dans ce qui doit être. Si je peux expliquer pourquoi le mal existe, finalement, je lui enlève de son caractère méchant, mauvais. Hein, parce que, ben, on le dit d'ailleurs, hein, expliquer c'est excuser. Donc si je peux expliquer pourquoi le mal existe, après tout, il n'est pas si mauvais que ça. Hein, Leibniz, pour revenir à lui, donc lui trouve l'explication, il faut les dissonances dans une pièce musicale. Donc les dissonances, après tout, sont quand même à leur place. Donc c'est pas tout à fait dissonant. Et donc de dire non, le mal est ce qui ne devrait pas être, et il n'y a pas d'explication pour cela, je ne sais pas, ça correspond à ce que le mal est, et il contribue en fait à affirmer son caractère révoltant, indignant. Et c'est d'ailleurs la seule approche qui permet de faire justice à notre réaction spontanée face au mal, qui est la révolte, qui est l'indignation, qui dit ça ne devrait pas exister. Et une explication, finalement, enlèverait de cette indignation. Et donc la réponse que l'Écriture propose n'est pas une réponse théorique, elle est une réponse pratique. Elle nous donne l'assurance que Dieu vaincra un jour le mal. Donc le prophète Isaïe qui dit « Il n'y a plus aucun péché qui ne se commettra sur la montagne du Seigneur. Hein, » Donc c'est un monde dans lequel tout mal aura disparu. Et l'Écriture nous donne aussi l'assurance que Dieu est présent au milieu de notre souffrance, qu'il nous a rejoints en fait, et qu'il a pris sur lui, hein, le mal par excellence, dans son Fils à la croix. et que Dieu donc est présent au cœur de notre souffrance. Donc Dieu apporte une réponse pratique. Il nous engage d'ailleurs dans cette réponse pratique, plutôt que de nous offrir une explication du mal, il nous engage dans le combat contre le mal. Je m'arrête ici. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du